Bonjour à toutes et à tous. Merci pour la grâce de Dieu. C'est lui qui a fait le chemin et nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons donc poursuivre ce que nous avions commencé. Vous savez, la lettre de Pierre, l'épître. Et si vous étiez déjà là, ou en tout cas, si vous nous rejoignez, on a beaucoup parlé. Aujourd'hui, on va encore en parler, mais on a beaucoup parlé déjà dans Jacques, dans les lectures suivies que nous faisons en ce moment. On a beaucoup parlé du monde et de sa morale, le monde qui est divisé, un monde qui est fracturé. Et Pierre faisait cette lettre, il écrivait à ses chrétiens dispersés, « Le monde est en hostilité à la parole de Dieu. Notre monde est toujours en hostilité à la parole de Dieu. » Et aujourd'hui, notre monde, il n'y a plus cette mentalité de groupe, il n'y a plus de mentalité de nation ou d'État, il y a la mentalité du « moi ». Le « moi » règne en Dieu. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Et si je fais ceci ou cela, qu'est-ce que j'en retire? Et même dans les amitiés, même dans les familles, il y a une partie de cela parfois. Pourquoi je suis ami avec lui? Parce qu'il a une piscine, c'est sympa l'été. Parfois on a cette amitié du donnant-donnant. On a une part d'égoïsme charnel. Et ce matin, Dieu, au travers l'épître de Pierre, il veut nous parler. Il veut exhorter ses enfants à vivre autrement. Et c'était ce que nous avait dit Jésus, ce qu'il avait partagé la semaine dernière. Il nous avait dit que les chrétiens régénérés, appelés par Jésus-Christ, sont appelés à vivre différemment. Et il avait cité tout un tas de points dont si Dieu est mort pour nos péchés, vivez différemment. Si Dieu, que vous appelez Père, est le juste juge, vivez différemment. Et il nous avait expliqué tout cela. Un chrétien vit différemment car Jésus-Christ est dans sa vie. Et Josué donc nous avait éclairé quelques points et nous avait montré qu'à la lumière de Christ, nous devons changer. Et c'est un apprentissage qui est long comme une vie, c'est-à-dire comme une vie chrétienne. Le chrétien est en perpétuel avancement, c'est une course perpétuelle. Un prédicateur disait, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de stagnation. Soit on avance avec Dieu, soit on recule avec le monde. C'est un peu brut, mais pour lui, on ne peut pas stagner en tant que chrétien. On avance, on fait des petits pas parfois, mais on avance constamment. Sinon, le monde nous rattrape. Vous savez, la pensée biblique, j'aime à dire, et on est plusieurs à le dire aussi, que c'est à contre-courant. Et si à contre-courant, si vous mettez dans l'eau à contre-courant, si vous ne faites pas des pas, même des petits, vous repartez dans l'autre sens. Vous ne pouvez pas vous arrêter, sinon vous êtes embarqué. Et la pensée biblique, c'est la même pensée qui habitait déjà les premiers chrétiens, qui nous habitent aussi aujourd'hui. Elle est en hostilité entre le monde. Donc ce matin, Bible en main, je vais vraiment vous proposer à continuer à lire et à comprendre ce que Dieu veut nous partager dans cette lecture par les mots de Pierre, qui écrivait à cette église primitive. Dans un monde hostile comme aujourd'hui nous sommes, nous, pas l'église primitive, une église qui a grandi, une église qui a plus de 2000 ans d'histoire, mais une église qui est toujours noyée dans un monde hostile. Donc c'est dans 1 Pierre 1, versets 22 à 25, et 2, versets 1 à 3. Donc je vous propose de lire. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Puisque vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme fleur de l'herbe, l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Jusque-là. Donc on va retirer plusieurs points. Et le premier, c'est l'obéissance qui mène à l'amour. C'est 1 Pierre 1, verset 22. Pierre s'adresse à ses chrétiens dispersés et leur dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Pierre, quand il commence ce verset, il dit « ayant purifié vos âmes ». Il était donc normal pour l'apôtre, à la vue de tout ce qui avait déjà été dit, tout ce qui avait déjà été écrit, que les chrétiens qui recevaient cette lettre, les chrétiens étaient véritables, ils étaient purs, ils étaient sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. On en a parlé tout de suite en prenant la scène, c'est le sang qui nous purifie. Mais également, ils devaient avoir une vie en accord avec ce qu'ils prêchaient, avec ce qu'ils disaient. Ça découle de ce qu'on a vu la semaine dernière et les semaines d'avant. Il vous dit « si vous faites ça, vous êtes purifiés. » Pierre, il ne dit pas « quand vous serez purifiés », mais il dit « ayant purifié vos âmes ». Nous sommes purifiés, nous aussi, aujourd'hui, chrétiens du 21e siècle, parce que nous sommes dépendants du même salut. Mais cela implique plusieurs points et quelques vérités qui doivent se vivre aujourd'hui aussi. Obéir à la vérité. Voilà ce qu'il va dire. Il va leur dire, puisque vous êtes là, ayant été purifiés, il leur dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. En obéissant à la vérité. Donc il faut obéir à la vérité. Nos âmes ne sont purifiées dans le sang de Christ seulement si nous croyons que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Seulement si nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Seulement si nous le croyons. Combien de personnes peuvent entendre ça, même assis ce matin, aujourd'hui, peuvent l'entendre, mais pas le croire. Il l'entend, oui, Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Il y a un pasteur qui se faisait coiffer, et son coiffeur, qui n'était pas chrétien, il reprochait un peu au pasteur, il fait « Oh, vous savez, Dieu, Jésus, on n'en a pas besoin, le monde, on l'entend, si Dieu a tant aimé le monde. » Enfin, il discutait souvent avec son pasteur, il fait « Vous voyez, regardez tout ce qu'il y a dans le monde, on voit bien que si c'était vraiment vrai, tout le monde le croirait, et tout le monde saurait et obéirait à la vérité. » Et le pasteur, sans se démonter, il montre des gens qui passaient devant le coiffeur, devant la boutique, et il y en avait qui étaient mal coiffés. Et puis, regardez tous ces gens mal coiffés. Regardez, c'est de votre faute, les coiffeurs existent pourtant. Il fait, mais je vois pas le rapport. Il fait, si, parce que ces gens-là n'ont pas besoin de coiffeur. Pour eux, leur coiffure leur convient. Ils n'ont pas besoin de se sentir appelés, se faire une belle coiffure, une couleur, ou quoi que ce soit. Il lui expliquait que finalement, Dieu, il existe. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Cette vérité, elle est vraie. Mais ça engage la personne à venir, ça engage la personne à entendre. Et dans un autre registre, dans une même anecdote, un pasteur qui était à New York, à Central Park, il disait « Le Seigneur parle, mais les gens ne l'entendent pas ». Il était à Central Park et il parlait avec un des membres de son église et il disait « Écoute les grillons ». Et dans Central Park, on entendait les grillons et il dit « Personne fait attention aux grillons ». Et il a sorti quelques cents de sa poche, donc la monnaie là-bas, et il l'a lâché par terre et tout le monde s'est retourné. Il dit, vous avez vu, le monde entend ce qu'il veut entendre. Et pourtant, c'était au même niveau. Parce que obéir à la vérité, pour obéir à la vérité, donc pour avoir son âme purifiée, il faut la croire. Et combien de personnes n'obéissent pas à cette vérité parce que pour eux, Jésus-Christ, ce n'est pas la vérité. Et après, pourquoi il faut obéir à cette vérité? Parce qu'elle nous purifie. Cette vérité est en nous. Elle était en ces chrétiens de la première heure. Elle est aujourd'hui en nous. Elle a changé notre vie comme elle a changé la leur. Nous sommes devenus des saints, mis à part pour Dieu, parce que sanctifier, c'est ça. Sanctifier, c'est pas les saints, c'est pas la petite auréole et les gens qui ne pêchent jamais. C'est des gens qui ont été mis à part pour Dieu. Donc ils sont en lutte. Ils sont en lutte pour ne pas pécher, pour marcher. Nous sommes purifiés car nous avons cru à l'œuvre de Christ et nous obéissons à ce que la Bible nous dit. Alors nos vies sont différentes, comme nous l'avons vu lors des derniers passages. Nous vivons différemment. Devenir chrétien nous a changé en mieux. C'est un homme, un jour, qui était venu à un congrès scientifique. Et devant l'assemblée, cet homme, il se fait appeler. C'était pas du tout chrétien. Mais c'était dans un petit village, donc tout le monde se connaissait plus ou moins. Et le scientifique qui voulait exposer son idée que la forme du crâne correspond à notre caractère, il le fait asseoir. Et il lui touche le crâne, puis il lui dit « Oh, c'est quelqu'un de très sévère, de très méchant. Oh là là, vous êtes caractériel. » Et tout le monde rigole. Tout le monde se met à se moquer et à discréditer le scientifique parce que tout le monde connaissait cet homme. C'était la personne très gentille, très humble, serviable. Et personne ne comprenait. Du coup, c'est un charlatan. Et avant que le scientifique se fasse mettre dehors du village, la personne se lève et le dit « Non, il a raison. J'étais comme ça avant que Jésus-Christ rentre dans ma vie. J'étais cet homme que vous avez décrit. Mais Jésus-Christ est venu. Je ne le suis plus. J'ai changé en bien. » Et ça nous arrive. Normalement, les gens ne nous reconnaissent plus ou ne nous reconnaissent pas. Et tout ça pourquoi? Pour cela nous pousse à découvrir l'amour véritable, celui de Christ. Alors nous sommes nous aussi appelés à aimer comme lui il aime. La conversion, ça change de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la seule vérité. Dans toutes les religions, si vous côtoyez un peu d'autres religieux, c'est toujours « moi je fais de l'extérieur pour donner des bonnes apparences. J'essaye de faire quelque chose, mais mon intérieur il reste le même. Mon cœur, je peux pas le changer. » Et alors que nous, c'est l'inverse. Tous ceux qui ont cru, tous ceux qui sont régénérés en Christ, c'est l'intérieur qui ressort vers l'extérieur. Et il nous appelle, Pierre appelle à l'amour véritable. La conversion, c'est l'âme, c'est l'esprit qui s'élève. Et la chair, elle n'aime pas. La chair, elle ne veut pas obéir. Mais l'obéissance à la vérité nous pousse à l'amour fraternel les uns pour les autres. Un bel amour que nous avons vécu tout à l'heure en partageant la scène. Un amour véritable. On ne regarde pas quelle couleur est le voisin, qu'est-ce qu'il a sur son compte en banque, comment il est habillé, qui il est. Non. On s'aime d'un amour fraternel en Jésus-Christ, comme Christ nous aime. Et si ce matin, je peux vous dire « je vous aime », c'est parce que Christ m'aime. Ma chair, elle ne vous aime pas, ça c'est sûr. Elle n'aimera jamais. Parce qu'elle ne peut pas, parce que la chair ne peut pas. La chair est inimitée contre Dieu. Mais Christ en moi dit « je vous aime, mes frères et sœurs, parce que nous pouvons le faire ». Et c'est à ça qu'il appelle. Pierre, c'est ça qu'il leur dit. Pierre pousse les chrétiens et chrétiennes du premier siècle à ne pas se détourner de ce qu'ils ont entendu, la vérité de l'évangile. Il leur demande de toujours obéir. Et grâce à cela, ils aimeront sincèrement et véritablement les frères et sœurs, mais aussi ceux du monde. Pierre écrit aussi de tout votre cœur. Il n'est pas ici question d'acception de personne. C'est pourquoi il va rappeler les deux semences où on arrive maintenant. C'est dans 1 Pierre 1, versets 23-25, c'est la suite, il va poursuivre. « Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Comme nous l'avons lu et entendu plusieurs fois, Pierre présente cette dualité du monde, la même dualité que je vous parlais tout à l'heure. Il présente aussi qu'elle est en chacun chrétien. Paul reprendra cette idée. Je veux faire le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je voudrais pas faire, je le fais. Paul présentera aussi cette même dualité qui existe dans le chrétien. Parce que nous avons une semence qui est la semence de la chair. La semence de la chair, c'est la semence qui mène à la mort. C'est la semence que tout homme possède en Adam. Le péché qui éloigne de Dieu. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je n'ai jamais rien fait ». Mais si on remonte suffisamment loin, on va finalement retomber sur Adam, parce que tout est parti de là. Donc finalement, on a fait quelque chose, parce que tout se donne par héritage. Donc on a tous péché et privé de la gloire de Dieu. Et ça, c'est l'héritage de la mort. Malgré toute notre puissance, un homme, même malgré toute la puissance qu'il peut avoir, on a parlé des milliardaires, il nous en a parlé tout à l'heure Michel, malgré tous leurs milliards, ils pourront rien faire. Ils peuvent pas se changer, ils pourront pas racheter leur salut. Ils vont inéluctablement vers la mort. Il y avait un milliardaire très riche, Carnegie, qui avait fait fortune dans l'acier. Il avait dit à 20 ans, il est devenu très riche très vite, je crois autour de 20-30 ans, il est devenu milliardaire en Amérique. Et il disait, je dois faire un choix, soit je laisse l'argent me dominer, soit je garde le contrôle. Et quand il est mort très riche, mais surtout très seul, et quasiment détesté de tout le monde, parce que c'est quelqu'un qui a laissé l'argent le dominer. C'est quelqu'un qui payait mal ses employés, qui les faisait travailler tout le temps, le dimanche, pas de vacances, rien du tout. Il a laissé l'argent lui ronger et il le savait lui-même dans ses derniers temps de sa vie. Il disait, j'ai donné ma vie à l'argent et qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Parce que quand la fin arrive, cette semence de mort, elle nous rappelle que ce qu'on est. Et Pierre, c'est ce qu'il leur dit. Attention, voilà ce que c'est la gloire. La gloire, l'herbe, elle sèche, toute sa gloire n'est rien du tout face à Dieu. Tout ça, c'est rien. Parce qu'on peut être découragé, comme ces premières assemblées pouvaient être découragées. Autour de nous, il y a des gens qui réussissent. Autour de nous, il y a des gens qui vont bien. Autour de nous, il y a des gens égoïstes qui font des mauvaises choses. Et puis qui y arrivent. Puis qui sont pas punis. Puis qui sont pas rattrapés par la loi. Et puis que tout le monde est d'accord. Puis nous, on se dit, mince. Un peu comme Asaph dans le psaume. Il disait, voilà, moi je suis, et puis j'y arrive à rien. Et puis eux, ils font ce qu'ils veulent, et puis ils ont tout. Mais Pierre nous rappelle. Et il leur rappelle, attention, tout ça, ça sert à rien. Ça n'a pas de valeur. Jésus nous parlait aussi du point et de la ligne. Ne travaillez pas pour ce point qui est votre vie terrestre finie. Travaillez pour l'éternité qui est une ligne qui ne finira jamais. Travaillez pour ce qui en vaut la peine. Et donc Pierre met en garde que cela est un obstacle à l'amour inconditionnel de Dieu et que Dieu veut que nous ayons les uns pour les autres. Il dit c'est un programme difficile mais qui n'est pas impossible parce qu'en Jésus-Christ nous avons un parfait modèle. Il leur dit ne regardez pas ce qui est charnel, ne regardons pas ce qui est charnel, mais rappelons-nous notre purification par l'obéissance à la vérité. Alors nous avons cette autre semence en nous. Tous ceux qui sont convertis, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ ont une autre semence. C'est la semence de Christ, c'est la vie éternelle. C'est une semence qui ne périme pas, et Pierre met en opposition ce monde charnel périssable. Dans 1 Pierre 1, versets 3 à 4, il le disait déjà, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni corrompre, ni flétrir, ni souillé, lequel vous est réservé dans les cieux. » Et plus loin, il va dire dans 1 Pierre 1, 18-19, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. » Pierre y rappelle ces vérités. Il leur dit, oui, il y a le monde, ça c'est une semence, mais vous, vous avez été appelés, il y a une autre semence en vous, une semence incorruptible, une semence qui vaut beaucoup plus, qui vaut beaucoup plus. Parce que c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, et on l'a rappelé tout à l'heure par la scène, ce sang précieux nous rachète totalement, complètement, par pure grâce. Il n'y a pas de prix. Il y a dans le chrétien un trésor. Nous sommes des vases de terre et nous portons un trésor qui n'a pas de valeur. Une semence qui dépasse le terrestre, une espérance d'éternité. Et c'est à cela que Pierre fait allusion au verset 23. « Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » L'apôtre, il exhorte les chrétiens à se souvenir de leurs conditions. de ce qu'ils sont en Christ, peu importe ce qu'ils sont dans le monde, peu importe la position qu'ils ont dans le monde, peu importe l'argent qu'ils ont dans le monde, peu importe ce qu'ils possèdent, peu importe comment on les regarde, c'est l'identité en Christ qui compte. Et leur dit que vous êtes dans un monde hostile dans lequel vous vivez. Aujourd'hui, c'est pareil pour nous, mais nous sommes appelés à vivre l'amour de Dieu en nous, premièrement, avec nos frères et sœurs et avec le monde. On ne peut pas aimer le monde si on ne s'aime pas nous. Et si nous ne nous entendons pas avec nos frères et sœurs, on aura du mal à aimer le monde. Par notre chair, par notre naissance terrestre, nous avons cette semence mauvaise. Mais notre esprit est régénéré par la semence en Christ qui peut tout et surtout aimer de tout notre cœur. Et quelle est cette semence? Il l'a dit, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous a été prêchée. Il leur dit, c'est l'évangile qui vous a été prêché. Il leur dit, la semence charnelle, elle détruit. Mais la semence de Christ, elle sauve. Et c'est la parole de Dieu qui nous a été prêchée un jour, vous tous qui avez été transformés. Un jour, Christ est venu dans notre cœur, régné par son esprit, et nous a montré ce que nous étions. Alors nous devons nous laisser faire, nous devons nous laisser transformer, nous devons nous laisser toujours façonner. Parce que Dieu relèvera le pécheur et pardonnera la semence de la chair. Honorons Dieu en faisant taire la chair pour que vive l'Esprit Saint en nous. Et un jeune homme qui était venu trouver un prédicateur qui disait « J'ai du mal, ma chair me ramène, ma chair fait ci ». Il avait du mal avec cette dualité. Et finalement, il lui a dit « Si tu veux les deux semences, les deux, la dualité que tu as en toi, c'est selon ce que tu nourris, c'est celui qui va gagner. C'est comme des chiens, si tu as deux chiens, si tu en nourris toujours un, celui qui va dominer, c'est celui que tu as nourri. L'autre, il est trop faible. » Il dit, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si tu nourris ta partie charnelle avec le monde, avec le travail, avec les soucis, avec tout un tas de loisirs qui peuvent être bons, mais qui tu négliges la prière, tu négliges le culte personnel, tu négliges le culte, tu négliges la lecture de la parole de Dieu, il va y avoir un déséquilibre en toi. Et il dit, nourris ton esprit pour que ton esprit domine sur ta chair. Il n'y a que ça comme moyen. Il était conscient que c'était que par la parole de Dieu. C'est même pas que le dimanche matin, que ça soit n'importe qui vienne parler. C'est vraiment nous, face à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on en fait pour grandir? Et Pierre, il sait que c'est pas facile. Il va dire, cette dualité du croyant en Jésus-Christ, elle est difficile à comprendre, parce qu'elle doit nous réapprendre à vivre en tant que Christ maître. C'est pourquoi il va poursuivre. Il va poursuivre pour ce point, et ça fait le lien avec ce que je disais en anecdote. Il va demander cette soif de grandir. Et cette soif de grandir, c'est l'apprentissage chrétien. C'est le point central de ce que va dire Pierre dans ce passage pour moi. Dans 1 Pierre 2, verset 1 à 3. « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Directement en lien, il va nous dire que la parole de Dieu, c'est cette semence incorruptible présente dans nos vies. Pierre va encourager les églises et les chrétiens dispersés à rejeter leur semence corruptible pour grandir dans la parole. Pierre était conscient que lorsque la chair nous anime, nous ne désirons pas la parole de Dieu. Et si nous rejetons tout ce qui est annoncé, alors la soif de grandir sera là et nous grandirons avec Dieu et avec Christ en sa parole. C'est notre choix aussi. Personnellement, des fois on est fatigué, des fois on veut pas, mais si le Seigneur nous pousse à avoir cette soif. Et personnellement, moi je l'avais pas, j'avais vécu une petite anecdote. Avec ma femme, on avait décidé qu'un soir dans la semaine, on se prenait une petite méditation. Et à chaque fois, pendant des semaines, dès qu'on commençait, elle s'endormait, quasiment. Et j'ai dit, ça peut pas arrêter, parce que quand on fait autre chose, ça va bien. Et on a prié ça, et c'est passé. Bon, je vois, maintenant on peut plus le faire, avec deux enfants, c'est plus difficile. Mais voilà, on a décidé qu'on devait pas se laisser faire, parce que la chair, dès qu'on dit, on va ouvrir la Bible, c'est vrai qu'après une journée de travail, super, on préfère se la couler douce ailleurs. Hein. Je dis pas, et c'est pas ça qui critique Pierre, il dit, attention, si vous laissez faire votre chair. Beaucoup de gens disaient, pourvu que le Seigneur nous appelle au réveil, on a envie du réveil. Et il y a un prédicateur qui disait, si les gens veulent se réveiller, il faut déjà qu'ils se mettent debout. Parce que c'est pas en étant allongé ou sur la banquette que vous allez faire quelque chose. Vous voyez, parfois, nous-mêmes, on désire quelque chose qu'on n'a pas vraiment conscience. Donc voilà pourquoi Pierre va pousser les chrétiens à lire la parole de Dieu, à s'encourager les uns les autres à travers les Écritures. Et il va dire, rejeter la malice et la ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance. La malice et la ruse, elles s'insinuent facilement en nous, parce que parfois on veut pas vraiment dire ou agir directement, on va louvoyer, et ça met un obstacle entre moi et mon frère. Parce que je n'aime pas de tout mon cœur. Vous voyez, j'ai un petit arrêt. J'agis avec malice, et du coup je peux même blesser mes frères et sœurs. La dissimulation, c'est ne pas dire la vérité dans l'amour. C'est ne pas dire la vérité à son frère ou à sa sœur, c'est mentir, c'est cacher des choses, parce qu'on veut pas s'exposer tel que nous sommes, de peur d'être jugé aussi. Hein. Et là, Pierre dit, ne dites pas n'importe quoi, mais soyons vrais, soyons vrais. Quand vous allez arriver vers quelqu'un, vers votre frère, votre sœur, ou même dans la, si vous faites de l'évangélisation, si on est vrai dans ce qu'on dit, dans ce qu'on propose, ça marche. Mais si on ne l'est pas, si on a du recul, si on a quelque chose qu'on veut dissimuler, ben ça se voit tout de suite. Parce que le salut que nous avons, c'est la vérité. Le sauveur que nous avons, c'est la vérité. Donc soyons vrais. Tout comme la malice et la ruse, la dissimulation empêchent l'amour fraternel véritable du corps de Christ. C'est un frein à l'unité et c'est un frein à la, de tout notre cœur que Pierre nous exhorte à vivre. Et l'envie, ben l'envie, c'est répandu. Envie à un frère, une sœur, un homme du monde aussi. On en a parlé tout à l'heure parce qu'il l'a pas. L'envie, c'est un gouffre sans fin. L'envie, c'est dès qu'on a quelque chose, ah, je veux vraiment ça, je suis sûr que si je l'ai, ma vie, elle sera bien. Et dès qu'on l'a, ah, je veux vraiment autre chose. Parce que je suis sûr, si je l'ai, ça sera bien. Et ça s'arrête jamais. L'envie, on n'arrête jamais de désirer. Et les publicitaires l'ont bien compris. Nous sommes des personnes à envie. Donc, on nous vend toujours la même chose. Il n'y a rien de différent, mais c'est juste nouveau. Donc, voilà. Il faut en avoir envie. Et Pierre nous dit que cela ne doit plus être, car c'est également un obstacle à la gloire de Dieu. Et à une tâche dans l'unité de l'Église. Et Jacques nous en avait déjà parlé, dans Jacques 4, versets 1 à 3. « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas par vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes car vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Jacques avait déjà dénoncé ça, enfin le dénoncera plus tard, parce que Pierre est le premier historiquement à avoir écrit la lettre. Mais Jacques écrit dans la même manière, avec des mots un peu plus fermes. « Vous, ce que vous demandez, vous l'aurez pas. Ça sert à rien, parce que Dieu ne va pas honorer de gagner au loto. Parce que déjà, si vous êtes 6 millions à gagner, ben, il n'y a plus beaucoup à se mettre dans la poche. » Voyez, il leur dit « Demandez, demandez à grandir, la soif de grandir avec Dieu. » Et la médisance, c'est un mot terrible. Car parler les uns sur les autres, c'est destructeur. Cela montre bien combien nous devons être régénérés par cette semence incorruptible pour ne pas laisser la médisance, l'envie et toute sa dissimulation, la ruse, la malice, altérer les belles relations que nous devons avoir. Soyons francs dans l'amour de Dieu. Jacques aussi était très sévère avec la médisance dans Jacques 3, versets 8 à 18, versets 8 et 9. « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel, car par elle nous bénissons le Seigneur notre Père et nous maudissons les hommes. » Fait à l'image de Dieu. Voilà le triste constat de ce que nous pouvons être. Et voilà ce qu'il leur dit, Pierre. Il faut que ça disparaisse. Après cette liste, qu'il a un peu listé tout ce qui fait obstacle, Pierre, il va dire que l'épanouissement de l'Église, c'est l'épanouissement et l'agrandissement de l'Église, c'est l'action de la parole de Dieu dans chacun des membres. C'est pas le pasteur, c'est pas le groupe de louanges, c'est tout le monde. Tout le monde croit. Alors chacun à sa vitesse, chacun en rapport avec le Seigneur, mais nous sommes tous appelés à croître ensemble. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon frère, ma sœur à croître avec le Seigneur? Et qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi? On voit mal des gens, on dit souvent qu'on est des pierres vivantes, des pierres qui sont construites, mais si moi je mets une pierre là, et puis une pierre à 25 mètres, et puis une autre pierre à 25 mètres, et ben mon mur il va servir à rien, parce que les pierres se touchent pas, et il n'y aura jamais de mur. Ce sera juste des pierres posées. Mais ce qu'il veut, c'est une unité. Il veut pouvoir bâtir quelque chose. Et désirer. Alors là, il rentre dans le désirer, mais c'est pas le même désir. Là, il dit désirer la parole de Dieu. Désirer. Avoir le désir de la parole de Dieu, c'est avoir soif, avoir faim de cette parole. C'est un désir bienheureux de vivre au pied du Seigneur, d'être nourri par cette parole. Et comme je l'avais déjà illustré à travers cette anecdote, plus on nourrit cette partie de nous, cette semence incorruptible, plus on désire. Et plus on désire, plus on nourrit. Et plus on nourrit, plus on désire. Et voilà, c'est un bon cycle. On rentre dans un bon cycle de croissance. On peut avoir des hauts et des bas, c'est vrai. Mais voilà, désirer, c'est ça qu'il va leur dire. Désirer de grandir en Christ. Et Pierre, il souligne cette vérité parce qu'il veut croître, mais pour la gloire de Dieu. Pour entrer pleinement dans notre vie chrétienne. Il leur dit, la vie chrétienne, c'était l'évangile que vous avez entendu. Oui, elle vous a transformé, mais c'est pas ça. C'est pas la finalité. La finalité, c'est que vous croissiez. La finalité, c'est que vous grandissiez. La finalité, c'est que l'Église croit. La finalité, c'est que vous parliez de l'Évangile et que d'autres parlent aussi. Mais ça commence en nous. L'Évangile, ce n'est pas « Ah, ça y est, je suis converti et je m'assois ». Non, l'Évangile, c'est « Dieu m'a trouvé et maintenant j'ai soif de lui appartenir et de grandir avec lui ». Et donc, on est régénéré, on nourrit cette partie régénérée, elle est plus puissante. Et nous avançons toujours plus près de l'imitation du modèle parfait qui est Christ. Paul dira « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ ». Et Pierre, il nous dit qu'il faut désirer cette parole, la Bible, pour grandir. Et nous, nous avons de la chance parce qu'elle est finie. À l'époque des premières églises, il y avait l'écriture qui était déjà suffisante, il y avait déjà pas mal de choses. Et nous, elle est terminée, la Bible. Elle est même en français, on peut la lire. On n'a pas à se cacher. Donc désirons la lire. Pierre exhorte les chrétiens d'hier et d'aujourd'hui de rechercher ce qui est bon pour eux, c'est-à-dire la croissance dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, l'amour véritable. La Bible est le lait pour le nouveau-né, puis plus solide pour l'adolescent, et puis la viande pour les grands. Elle s'adapte, la Bible, elle s'adapte, elle fait croître. Paul sera assez virulent en disant « Vous devriez déjà, vous, je suis obligé de vous donner le lait, alors que vous devriez déjà avoir des aliments solides, parce que vous n'avez pas compris, vous êtes restés à cette fonction, à cet état d'enfant. Vous auriez dû croître, vous auriez dû grandir. » Et la parole de Dieu s'adapte, et elle s'adapte à nous. Et je vais conclure. Donc, que retenons-nous de ce passage très riche de Pierre? J'aimerais vous laisser ces quelques versets qui vont nous montrer le besoin que nous avons toujours d'avancer dans la vie chrétienne. Pierre, il n'était pas dupe en écrivant ces lignes, soufflées par le Saint-Esprit, que si nous éloignons de Dieu, nous perdons notre communion avec le Père, et il nous est alors impossible de faire grandir cette semence incorruptible que nous avons dans nos vies, et la chair reprend ses droits. Ne laissons pas cet état arriver. Et si c'est le cas, nous avons une solution par ces versets. C'est 1 Pierre 2, versets 1 à 3. J'aimerais vraiment vous encourager. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et je pense que nous avons tous goûté un jour que le Seigneur est bon. Donc désirons cette nourriture que Dieu veut nous donner tous les jours et pas seulement le dimanche. Ralph Chalice disait dans Si tu veux aller plus loin, c'est un de ses livres, il disait que lui lisait la parole 3 fois par jour. Il fait « Je nourris ma chair 3 fois par jour, je nourris ma semence incorruptible 3 fois par jour. » Il fait « Je mets au même niveau. » Pas qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre. Enfin, que la chair prenne le pas sur l'esprit. Il fait « Ça devrait être un minimum pour le chrétien. » Et c'est pas bête. Avons soif, avons-nous faim de la parole de Dieu? Avons-nous, désirons-nous ce lait? Nous sommes alors appelés à grandir. Je laisserai un peu cette question ouverte. Est-ce que j'ai grandi dans ma vie spirituelle ces derniers temps? Est-ce que j'ai désiré le lait que j'ai désiré que la parole de Dieu veut me donner? C'est ce que je vous laisserai, ce que la parole nous laisse, ce que nous désirons grandir avec l'Éternel. Ma Seigneur, merci de nous faire désirer ta parole. Merci de nous avoir rachetés, et malgré cette imperfection qui est en nous, malgré ces imperfections qui sont dans nous, Seigneur, nous voulons vraiment avoir un cœur ouvert devant toi, Seigneur, pour grandir, croître avec toi, et croître ensemble, Seigneur, dans l'amour fraternel que tu veux voir. Tu veux voir ton Église briller, et apprends-nous, Seigneur, alors à briller déjà nous-mêmes pour briller ensemble, Seigneur. Loué soit ton nom, parce que tu nous as envoyé ta parole pour grandir ensemble. Amen.